Vous écoutez, on lit pour vous.
L'entrepreneuse obsessionnelle. Un texte de Félix Zogning, paru le 18 août 2025 dans la presse. On le voit partout. Dans les écoles, les incubateurs, les talk-shows, les campagnes gouvernementales ou sur LinkedIn. L'entrepreneuriat est brandi comme la solution miracle à tous les maux. Chômage, entreprenez. Exclusion, entreprenez. Crise climatique, entreprenez mieux. Stagnation économique, vous avez deviné. Entreprenez différemment. Et si cela révélait un basculement culturel? À force de tout réenchanter par l'entrepreneuriat, ne sommes-nous pas tombés dans une forme d'obsession collective? Une entrepreneuse obsessionnelle où le statut d'entrepreneur devient prescrit, voire sacralisé. Une nouvelle norme sociale, un impératif moral. Autrefois, entreprendre relevait de l'exception. Un choix audacieux, admiré, mais risqué. Aujourd'hui, c'est une attente implicite. On ne dit plus « j'ai un projet », mais « je dois me lancer ». Ne pas entreprendre donne l'impression d'être en retard. L'entrepreneur est devenu une figure héroïque incarnant autonomie, créativité, agilité et réussite personnelle, même au prix de l'épuisement. Le salariat semble relégué à un statut moins ambitieux, presque honteux. Cette valorisation s'impose dans les politiques publiques, les programmes scolaires, les médias et le développement personnel. Crée ta boîte ou reste à la traîne. Dans les communautés marginalisées, c'est présenté comme une réponse à l'exclusion. Même les programmes d'aide sociale y voient parfois un raccourci vers la responsabilisation des individus. De la promesse à la pression. Cette célébration s'accompagne d'une pression diffuse. Il faut être créatif, passionné, autonome, innovant et ne pas attendre. L'entrepreneuriat devient un devoir social. Chacun est sommé d'être l'architecte unique de sa réussite ou de son échec. Et si vous échouez, c'est que vous n'aviez pas assez cru en vous. C'est que vous n'étiez pas assez agile, pas assez persévérant. Cette pression laisse des traces. Selon une étude de la Banque de développement du Canada 2025, 36 % des propriétaires d'entreprises affirment que des problèmes de santé mentale nuisent à leur capacité de travailler au moins une fois par semaine. Derrière l'image de liberté se cache souvent une solitude épuisante, rarement reconnue dans le récit dominant. L'illusion d'universalité. Une enquête de la RBC 2023 révèle que près des deux tiers des Canadiens, 80 % au Québec, voient l'entrepreneuriat comme la suite logique de leur développement professionnel, comme si le salariat n'était plus une ambition crédible. Cette adhésion massive entretient l'illusion que tout le monde peut et doit entreprendre. Mais tout le monde n'a pas un réseau, un capital de départ, une santé mentale stable, un logement adéquat ou la liberté d'échouer sans conséquence. Tout le monde ne part pas avec les mêmes cartes. Loin d'être neutre, l'entrepreneuriat peut reproduire les inégalités liées au genre, à l'origine ethnique, au statut migratoire, au handicap ou à la localisation. Pourtant, on continue à le présenter comme un modèle méritocratique où seul compterait volonté, effort et créativité. Ce qu'on perd à en faire un devoir. Ériger l'entrepreneuriat en obligation morale, c'est perdre la beauté du choix libre, créé par envie, non par injonction. Préférer parfois l'emploi stable, le collectif, le service public ou la coopération. bâtir autrement. Il ne s'agit pas ici de diaboliser l'entrepreneuriat. C'est un formidable levier d'émancipation, d'innovation et de transformation. Il permet à des milliers de personnes de bâtir, de rêver, de transcender leurs conditions. Et je suis sans doute parmi ses défenseurs les plus enthousiastes. Mais il faut le défendre contre son excès. Lui rendre ses nuances, le désacraliser pour mieux l'humaniser, permettre à chacun et chacune de l'habiter à sa façon. Ou de ne pas l'habiter du tout. Sortir de l'obsession. Face à l'entrepreneuse obsessionnelle, il faut renouveler nos récits. Parler des échecs, des doutes, de la fatigue, de la santé mentale et des renoncements, offrir des histoires plus humaines, moins idéalisées. Nos écosystèmes doivent être plus inclusifs et accueillants pour les trajectoires plurielles. Accompagner ceux qui veulent entreprendre sans imposer ce chemin comme unique horizon. Enfin, reconnaître que l'entrepreneuriat ne sauvera pas le monde seul. Ce n'est qu'un outil parmi d'autres dans un projet plus vaste de justice sociale, de solidarité et de dignité. L'entrepreneuriat vaut mieux qu'un slogan. Il mérite un regard lucide, exigeant et bienveillant. En fin de compte, entreprendre ne devrait jamais être un devoir. Juste une possibilité. C'était « L'entrepreneuse obsessionnelle », un texte de Félix Zogning, paru le 18 août 2025 dans La Presse.
Un long voyage sans mode d'emploi, un texte de Joanne Turcotte, paru le 24 septembre 2025 dans La Presse. Ce petit garçon flottait littéralement dans les eaux de son petit nid qui devait le protéger tout le long de ma grossesse. Son poids de 550 grammes a aussitôt nécessité une intubation d'urgence. Le médecin l'a sorti in extremis de la poche des os, intubé et branché à une multitude d'appareils tout aussi inquiétants les uns que les autres. La survie de bébé Jonathan dépendra de toutes ces machines pendant plusieurs mois de son existence. En tout, son père et moi l'avons accompagné durant 8 longs mois aux soins intensifs et intermédiaires du CHUL de Québec à travers un périple pour sa survie. Tout au long du combat de Jonathan pour survivre, j'ai toujours eu le sentiment que le cordon ombilical ne s'était jamais rompu durant son accouchement. Son développement extra-utérin était en quelque sorte une continuité de ma grossesse. Alors, pour moi, c'est seulement le mercredi 23 janvier 1991 que j'ai mis au monde mon enfant, car son papa et moi sommes entrés dans notre demeure de Jonquière avec le petit Jonathan dans nos bras. À ce moment, nous étions persuadés d'avoir surmonté les plus gros obstacles de ce long voyage, mais malheureusement, cette expédition remplie d'embûches et de routes sinueuses ne faisait que commencer. Notre enfant nous a été remis avec une paralysie cérébrale sévère, sans mode d'emploi. Grandir dans le malheur. Au fil des mois, une bonne partie de notre énergie a été utilisée pour lui permettre de se développer le plus possible avec l'ensemble de ses capacités. Nous nous débattions également pour notre propre survie. Courir les cliniques et les hôpitaux était presque une activité quotidienne. Physio, ergo, orthophonie et j'en passe. Notre objectif était de lui donner la possibilité de progresser avec ses multiples déficiences sans pour autant perdre de vue que nous devions nous accomplir dans notre vie personnelle. J'ai toujours pensé que des parents malheureux rendaient leurs enfants malheureux et j'en suis d'autant plus convaincue aujourd'hui. Un grand malheur doit inévitablement nous faire grandir, sinon la vie ne vaut vraiment pas la peine d'être vécue. Souvent, on m'a dit « Tu sais, le temps arrange bien les choses. » Mais combien de temps cela prend-il? Encore à ce jour, j'ai toujours une révolte imprégnée au plus profond de mon cœur et c'est excessivement douloureux. Il m'est encore extrêmement difficile d'accepter l'état de mon fils. Je ne sais pas si je pourrai m'y résigner un jour. Le fait de partager avec vous mon combat d'espoir contribue à amoindrir mes douleurs psychiques et ma culpabilité profonde face à la déficience de mon enfant. Et de plus, si ce récit contribue à arracher un seul parent d'enfant handicapé de son silence destructeur, mon but sera atteint et j'en serai déjà très gratifiée. Aujourd'hui, Jonathan saute en parachute chez Voltige. Il vit dans une ressource intermédiaire de la Fondation Le Pilier depuis déjà plusieurs années. Il est âgé de 35 ans et il est un des deux ambassadeurs de cette fondation. Que voulez-vous? C'est un gars du Saguenay. Il parle beaucoup. D'ailleurs, un grand merci à cette fondation, car on dit que ça prend un village pour éduquer un enfant, alors ça prend une province pour faire évoluer un enfant handicapé et le rendre heureux. C'était « Un long voyage sans mode d'emploi », un texte de Joanne Turcotte, paru le 24 septembre 2025 dans La Presse.
Les camionneurs, victimes collatérales de la guerre tarifaire, un texte de Marieke Glorieux-Strickman, paru le 21 juillet 2025 dans Le Devoir. Les coupes se multiplient dans l'industrie du camionnage, par suite des tarifs et des contre-tarifs douaniers. Les camionneurs se retrouvent pris entre les entreprises productrices et leurs clients, sans contrôle sur la situation et aux premières lignes du ralentissement commercial. Sébastien Desaunier et Marie-Christine Marchand, partenaires de vie depuis 20 ans et de camionnage depuis 12 ans, constatent ces changements au quotidien. Contactés à Calgary alors qu'ils s'apprêtaient à terminer une livraison depuis Vancouver, le couple ne savait pas encore quelle serait leur prochaine destination. « Il y a de bonnes chances qu'on retourne à la maison », explique M. Desaunier. Le couple de camionneurs qui travaille pour l'entreprise Transwest faisait autrefois beaucoup de livraisons dans l'Ouest américain, en Californie et en Arizona. Maintenant, avec la diminution de la demande, ils doivent diversifier leurs destinations. Les clients canadiens sont en augmentation, mais on finit toujours par passer par les États-Unis à un moment ou à un autre, explique M. Desaunier. Le couple avait l'habitude de faire 3 voyages par mois, ce qui est considéré comme du temps plein. Il n'en fait désormais plus que 2, faute de produits à transporter du sud au nord de la frontière. On voit que, dans les bureaux, ils ont du travail à faire pour trouver des destinations, raconte Mme Marchand. Des effets immédiats. Du transport des matières premières à la livraison des biens aux consommateurs, le camionnage est impliqué dans toute la chaîne de production et ressent rapidement l'effet des fluctuations économiques, explique Marc Cadieu, président-directeur général de l'Association du camionnage du Québec, ACQ. Règle générale, dans l'industrie, on n'a pas besoin, comme les économistes, de 3 mois pour comprendre qu'on est en ralentissement. Après 30 jours, je peux vous dire que j'ai des transporteurs qui m'appellent et me disent que ça ne va pas bien, soutient-il. À Transwest, l'incertitude qui règne dans les marchés a mené à une fluctuation de la demande à laquelle la compagnie de transport a eu de la difficulté à s'adapter, selon Pascal Godet, vice-président aux ventes et au développement des affaires. Il confie que l'entreprise qui transporte surtout des denrées alimentaires voit toujours une diminution de la demande pendant l'été, quand les produits locaux sont plus disponibles, mais cette année, elle est plus basse que jamais. Sébastien et Marie-Christine expliquent que, dans le passé, ils n'attendaient que quelques heures dans les villes américaines avant de trouver de quoi remplir leur camion pour revenir au Canada. Maintenant, cette période peut atteindre 4 jours. Moins de camions, moins de conducteurs. Pascal Godet rapporte qu'un gel d'embauche est en place depuis le début de l'année à Transwest et que l'équipe de direction a annoncé jeudi matin au personnel de l'entreprise qu'elle avait l'intention de vendre 25 des 200 camions de la flotte de l'entreprise pour éviter de les faire rouler à perte. « C'est juste le début », prévient-il. « Si ça se maintient comme ça avant la fin de l'année, on va réduire encore. » Les effets de l'incertitude économique ne sont pas limités aux camionneurs.
Plus tôt ce mois-ci, le constructeur américain de camions, Packer, annonçait des mises à pied dans son usine de Sainte-Thérèse. Près de 175 employés de l'usine perdront leur emploi à partir du 4 août, un chiffre qui s'ajoute à la cessation de 250 emplois annoncés en décembre. Ces compressions représentent 25% de la main-d'œuvre de l'usine, selon le syndicat Unifor. Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor, estime que ces annonces ont été faites en réponse à l'incertitude économique causée, entre autres, par la guerre tarifaire actuelle. En effet, même si les pièces de camion ne sont pas trop touchées par les tarifs pour le moment, M. Cloutier souligne que ceux qui s'appliquent à l'aluminium et l'acier ne sont pas sans conséquences. Quand on fait le jeu de taxer plusieurs fois l'aluminium à chaque fois qu'il traverse la frontière, ça crée de l'inflation. L'usine de Sainte-Thérèse commençait tout juste à se rétablir des problèmes de chaîne d'approvisionnement qui l'avaient hanté ces dernières années, déplore-t-il. Et il craint que l'effet des tarifs sur la production de l'usine Packer n'encourage l'achat de camions construits à moindre coût au Mexique. Pascal Godet souligne de son côté que la situation économique était déjà complexe avant la guerre tarifaire. C'était déjà très difficile, et là, avec le recul économique, ce phénomène-là devient exponentiel et ça s'amplifie. Pour le meilleur et pour le pire. Selon l'ACQ, les gouvernements provinciaux pourraient entre autres faciliter le commerce interprovincial en éliminant la nécessité pour les conducteurs de camions d'avoir différents permis de conduire d'une province à l'autre. Marie-Christine Marchand, elle, dénonce l'inaction des autorités face à la crise que vit l'industrie. On se sent souvent oublié, en tant que camionneur, au niveau du gouvernement. Dans le temps de la COVID-19, on était des héros, mais ça ne dure pas longtemps. Son partenaire de camionnage et de vie, Sébastien Desaulniers, estime d'ailleurs qu'il sera impossible de démêler les économies du Canada et des États-Unis. La politique peut bien avoir ses visions, mais on est marié avec nos voisins américains, pour le meilleur et pour le pire. C'était « Les camionneurs, victimes collatérales de la guerre tarifaire », un texte de Marieke Glorieux-Strickman, paru le 21 juillet 2025 dans Le Devoir.
Présentation éducative du Centre national pour la vérité et la réconciliation, CNVR. Un texte de la rédaction paru sur le site du Centre national pour la vérité et la réconciliation. À propos des présentations éducatives du CNVR. Le Centre national pour la vérité et la réconciliation offre des présentations, des ateliers et des activités éducatives sur demande. Chaque séance est adaptée selon les connaissances et l'intérêt du public en ce qui a trait aux pensionnats autochtones et aux archives. Que votre auditoire n'ait jamais entendu parler des pensionnats autochtones auparavant ou qu'il souhaite connaître les façons de s'impliquer pour la justice sociale, les membres du personnel du CNVR sauront vous orienter sur divers sujets liés à notre mandat. Sujets et thèmes. Parmi les sujets demandés le plus fréquemment, citons « Histoire des pensionnats autochtones et expérience des survivantes et survivants »,« Convention de règlement relative aux pensionnats autochtones »,« Histoire de la Commission de vérité et réconciliation du Canada », CVR et du CNVR, collection du CNVR et marche à suivre pour accéder aux archives et travailler avec celles-ci, y compris la façon de procéder à une analyse des documents de sources primaires, régimes coloniaux et leurs impacts, rafle des années 1960, externats autochtones, sanatorium, femmes et filles autochtones disparues et assassinées, traumatisme intergénérationnel et guérison, registre commémoratif national des élèves, enfants disparus et lieux de sépulture non marqués, façon de s'impliquer pour la justice sociale et de répondre aux appels à l'action. réserver une présentation. N'hésitez pas à communiquer avec nous pour réserver une présentation. Notre équipe travaillera avec vous pour préparer une présentation sur mesure en fonction de vos besoins. Visitez notre page Web à l'adresse nctr.ca. Les demandes soumises par des enseignants, des élèves, des organisations et les secteurs privés et publics sont évaluées par l'équipe du CNVR chargée du volet éducatif, qui détermine qui convient le mieux pour donner la présentation. La durée des présentations varie d'une heure à une demi-journée. Mentionnons que les présentations sont offertes tout au long de l'année. Séance en français. L'équipe de l'éducation du CNVR est en mesure d'offrir des séances en anglais et en français pour tous les contenus. Tarifs. Le CNVR applique un barème de tarification dégressif afin que tous les groupes et organisations aient accès au contenu des présentations et à l'information. Nous recommandons une contribution de 300 $ pour chaque heure de participation ou de développement d'un nouveau contenu. Avis de programmation. Veuillez prévoir un délai d'au moins 2 semaines entre la création de votre demande et la date pour laquelle vous faites appel à nos services. C'était « Présentation éducative du Centre national pour la vérité et la réconciliation, CNVR ». Un texte de la rédaction paru sur le site du Centre national pour la vérité et la réconciliation.
Du dépistage de maladies chroniques dans des centres de prévention. Un texte de Marie-Ève Cousineau paru le 21 août 2025 dans La Presse. Québec investit 15 millions de dollars cette année dans la mise en œuvre de sa nouvelle stratégie nationale de prévention en santé 2025-2035. Il compte transformer les points de service locaux, offrant la vaccination et la prise de prélèvement, en centres de prévention. Des projets pilotes doivent être lancés au cours de l'année afin de repérer les personnes à risque de maladies chroniques, comme le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires. Du dépistage pour le virus du papillome humain, VPH, principale cause du cancer du col de l'utérus, sera aussi offert dans les futurs centres de prévention. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a fait l'annonce de ces mesures lors d'une conférence de presse tenue à Montréal jeudi, en compagnie de plusieurs ministres et du directeur national de santé publique du Québec, le Dr Luc Boileau. Citation. « Il faut agir à la source », a dit Christian Dubé. « La prévention fait partie des solutions pour être capable de diminuer la pression sur le réseau de la santé. Si on limite la pression sur le réseau, on va améliorer l'accès pour ceux qui en ont vraiment besoin. » Fin de citation. La stratégie nationale de prévention en santé prévoit des cibles chiffrées. Réduire de 10 % l'impact des maladies évitables sur le système de santé et diminuer de 10 % l'écart de mortalité prématurée lié aux inégalités socio-économiques d'ici 2035. Selon le gouvernement, plus de 3,2 millions de personnes de 25 ans et plus présentent au moins une maladie chronique, soit près d'un Québécois sur deux. Dans sa stratégie, il indique que, citation, « les personnes les plus défavorisées peuvent s'attendre à vivre en bonne santé 6 ans de moins que les plus favorisées ». Fin de citation. Le ministre Dubé estime qu'il faut faire un véritable virage du curatif vers la prévention. Un plan d'action détaillé sera présenté dans les prochains mois. Citation. Si on fait une bonne job dans les prochains mois, on va convaincre le ministre des Finances d'en mettre un peu plus en prévention. Fin de citation. Le budget de la santé dépasse les 60 milliards. Sur cette somme, environ 1,5 milliard est destiné à la santé publique. Le montant accordé à la prévention en santé n'est toutefois pas clair au sein des divers ministères, selon le ministre. Christian Dubé souhaite que le Dr Boileau et Santé Québec déterminent la somme exacte dépensée en la matière afin de pouvoir présenter un portrait de la situation à ses collègues et au ministre des Finances, Éric Girard. Lors du point de presse, le Dr Boileau a plaidé que, citation, « Chaque dollar investi en prévention génère des retombées individuelles et collectives souvent inestimables. Fin de citation. Citation. Pour un dollar, on va aller chercher 7, 14, 25, 33, 34 dollars de plus de rentabilité quand on calcule tous les bénéfices qui sont associés à cela. Fin de citation, a-t-il précisé. Une responsabilité partagée. Durant son allocution, la ministre responsable du sport, du loisir et du plein air, Isabelle Charest, a rappelé aux citoyens leur responsabilité à l'égard de leur santé. Citation. Pour avoir de saines habitudes de vie, ça demeure un choix quotidien, un combat constant de façon individuelle. Encore une fois, le gouvernement, les partenaires et tout ça, on va mettre en place des mesures. Mais pour tous et chacun, c'est important de s'investir dans sa santé. Fin de citation. En entrevue, la ministre a indiqué que la stratégie présentée est un premier pas avant la mise en œuvre du plan d'action. Elle s'est dit très satisfaite de la somme consacrée à l'activité physique. Citation. Il y a quand même une enveloppe de 15 millions et il y a 5 millions qui me revient. Fin de citation. Grâce à cet argent, des activités d'initiation et de découverte seront offertes gratuitement à des Québécois qui ne bougent pas dans des centres communautaires, précise-t-elle. Réaction des organismes. La nouvelle stratégie est saluée par plusieurs organismes qui ont participé aux consultations tenues entre décembre et juin. La Fondation québécoise du cancer accueille favorablement la stratégie et les mesures concrètes annoncées qui représentent de l'argent neuf. La cible de réduction de 10 % de l'impact des maladies évitables sur le système de santé d'ici 2035 apparaît ambitieuse aux yeux de son directeur général, Marco Dessel. Citation. Ça va prendre un plan d'action et ça va prendre des sommes. C'est pas avec des 15 millions qu'on va saupoudrer à gauche et à droite qu'on va y arriver. Fin de citation. L'apôtre de l'activité physique Pierre Lavoie, qui fait partie de la Coalition pour l'avenir du sport et de l'activité physique au Québec, reste sur sa faim. Citation. Je m'attendais à plus de concret, des montants. Fin de citation, affirme-t-il. Pour lui, la preuve n'est plus à faire. Il faut investir en prévention, en particulier chez les 0-17 ans. Citation. Je comprends les finances publiques, mais tant et aussi longtemps qu'on ne prendra pas la prévention au sérieux, les coûts de santé vont continuer d'exploser. Fin de citation. C'était du dépistage de maladies chroniques dans des centres de prévention, un texte de Marie-Ève Cousineau, paru le 21 août 2025 dans La Presse.